les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. D'un côté, le texte initial, de l'autre, les dialogues d'un film. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Une bonne adaptation peut prendre les plus grandes libertés avec le roman ou avec la pièce de théâtre d'origine. L'essentiel, on s'en doute, est que le film soit bon, dans le sens où il doit être fidèle, sans être académique. Grâce à Soirée de Paris, voici un survol de quelques œuvres signées Balzac, Jean Cocteau, Jules Romain, Raymond Radiguet, Stefan Zweig, adaptées au cinéma. Soirée de Paris, première diffusion sur la chaîne nationale le 3 mai 1953.
La radiodiffusion française présente La plume et la lumière, du roman au cinéma. Une émission de Nicole Védrès et Dominique Fabre, avec des textes de Balzac, Giraudoux, Jean Cocteau et Robert Bresson, Raymond Radiguet, Jean Orange et Pierre Bost, Jules Romain, Georges Neveu et René Char. Interprété par Maria Cazares de la Comédie-Française, Jeanne Moreau, Nicole Ladmiral, Louise Comte, sociétaire de la Comédie-Française, Roland Alexandre de la Comédie-Française, Michel Bouquet, Renaud Marie, Jacques Hilling, Léon Harvel, Georges Cellier. Réalisation Henri Soubeyran.
Faut-il adapter pour l'écran pièces de théâtre ou romans célèbres ? La question fut posée alors que le cinéma muet n'en était qu'à ses débuts et, en ce juste milieu du siècle, elle agite encore cinéastes et critiques.
Cette question, nous allons la poser à notre tour, mais sans vouloir y répondre. Simplement pour citer quelques cas de collaboration où les écrivains de cinéma ont transposé, inventé même parfois, mais sans cependant, à notre avis, trahir l'esprit du romancier, du dramaturge ou du poète.
Oui, mais alors, avouons-le, ces cas sont rares. Et si l'on dit traduttore, traditore, il faudrait ajouter plus sévèrement encore adaptateur, profanateur.
Oui, comme le disait un jour un fâcheux en songeant aux adaptations filmées d'œuvres littéraires, donnez-leur du Gide, ils en font toujours de l'Henri Bordeaux.
Oui, mais alors, cette fois-ci, c'est aller un peu loin, car pas toujours cependant, et c'est ce que nous tenterons de prouver en reconnaissant pourtant que les exigences de la scène et du roman et du poème plus encore, sont opposées à celles de l'écran et qu'il faut donc opérer en quelque sorte une transfusion de sève. L'élément a changé, mais la vie doit continuer. L'adaptateur doit supprimer telle scène, en imaginer une autre, non pas de toute pièce, mais à partir souvent de quelques mots, de quelques indices, de quelques points de repère que lui offre l'œuvre originale.
Vous ne croyez pas qu'on pourrait aller même jusqu'à dire qu'il ne doit pas s'effacer devant cette œuvre, qu'il doit plutôt la magnifier dans ce qu'elle a de cinématographique, et en somme, rien ne lui interdit, à condition naturellement qu'il soit assez épris de son sujet, qu'il soit épris du style, qu'il soit épris de l'atmosphère, et pas seulement de l'anecdote. Rien ne lui interdit, en ce cas, de repenser cette œuvre selon le tempérament qui lui est propre, son tempérament d'écrivain du cinéma, et même, si l'on peut employer ce mot, de poète de cinéma.
Mais je crois qu'on ne peut pas mieux faire que d'aborder la première collaboration, Giraudoux avec Balzac pour la Duchesse de Langeais.
Le pauvre Balzac, à des fins cinématographiques, s'était vu infliger déjà maintes fois le supplice de l'adaptation, souvent pour le pire, mais avec Giraudoux, je crois, pour le meilleur. Et pourtant, c'est un mariage étrange. Giraudoux limpide et souvent lapidaire, Balzac touffu, grondant, menant d'une main gigantesque cet attelage qu'on appelle la comédie humaine.
Et alors il faut ajouter à cela que le film et le roman ont été écrits à quelques cent ans de distance.
Et que Giraudoux, pour présenter ses personnages, ne disposait que des ressources d'un dialogue qui doit être parlé. Il s'est d'ailleurs assez expliqué sur ce que cette entreprise, nouvelle pour lui, représentait. Il a expliqué ce que c'était pour un homme de théâtre que de composer le scénario et les dialogues d'un film. Il a, à mon sens, très exactement analysé la situation. Voici ce qu'il disait.
Tels sont les principes de ces deux arts. La suggestion du spectateur sur l'auteur, c'est ce qui fait le théâtre. La suggestion de l'auteur sur le spectateur, c'est ce qui fait le film. Et la conclusion s'impose. Ce qui importe le plus dans le film, c'est l'auteur. Une époque peut créer un théâtre. Seul un auteur peut faire un film. Les missions confiées aux dialoguistes, aux découpeurs, aux équipes d'imagination ne sont que des délégations et le plus souvent médiocres. L'auteur du film doit disposer à chaque instant de ces qualités dont une seule suffit à l'auteur dramatique, le lyrisme et l'humour, la luxuriance et le choix, le style et le silence. Il faut y ajouter le don que réclame toute fresque, l'ampleur du souvenir et de la prévision. Si le film marque souvent le pas, c'est qu'il est bien difficile avec ses exigences de trouver l'homme qui réponde à toutes et qu'on s'en tire généralement par une collaboration entre deux auteurs, l'auteur dans le temps qui est l'écrivain et l'auteur dans l'espace qui est le metteur en scène. Quand il y a identité entre eux, qu'ils s'appellent tous deux Charlie Chaplin ou René Clair, c'est parfait. À moins, ne citons pas de nom, que ce soit effroyable.
Alors que Balzac, en 40 pages, fait le portrait de ses héros, interroge leurs antécédents, esquisse la politique de plusieurs générations pour que le siècle retombe sur ses pieds, roule carrosse à travers la moitié de la France, meuble tous les hôtels du faubourg Saint-Germain et ne laisse apparaître son héroïne, l'héroïne, qu'après avoir fait le ménage et posé le dernier napperon sur chaque table.
Eh bien, que fait Giraudoux dès la scène d'introduction du film ? Je disais mariage étrange, mais oui, parce qu'il est à la fois d'amour et de raison. Avant de nous présenter l'héroïne, la duchesse de Langeais, il réussit à composer, aux dépens même de Balzac, une scène typiquement giraldusienne. Car tous les personnages de ce roman-là, et même ceux d'autres romans, vont apparaître, annoncés un soir de bal par un valet de pied, tandis que le marquis de Ronquerolles, voyant, devin, nous prédira en aparté la suite de leur destin.
Monsieur le comte de Marsay,
qui mourra dans 5 ans, victime d'une vie trop ardente.
Monsieur le duc de Grandlieu,
qui mourra dans l'année d'une chute de cheval en forêt de Compiègne.
Mademoiselle Paquita Valdez,
la fille aux yeux d'or, qui mourra assassinée avant l'automne.
Madame la princesse de Blamont-Chauny,
qui ne mourra jamais, celle-là,
qu'on trouvera gelée dans son lit un matin d'hiver.
Monsieur le marquis d'Ajuda, madame la vicomtesse de Beauséant,
qui mourra d'amour.
Madame la duchesse de Langeais,
Qui avant six mois.
Mais là, Ronquerolles est interrompu, bien sûr. Giraudoux nous tend la clé du drame, mais il ne la fera tourner dans la serrure du destin qu'au tout dernier moment du film. Pour l'heure, il lui faut nous montrer comment la duchesse rencontre pour la première fois Armand de Montriveau, avec lequel commence une aventure où elle croira ne mettre en jeu que son esprit, mais où elle laissera son cœur.
Et cette scène de la rencontre s'achève chez Balzac sur une phrase que nous retrouverons allégée et comme épurée dans le film. En effet, Balzac fait dire à la duchesse
« Monsieur, je ne sais si le peu d'instants pendant lesquels j'ai eu le plaisir de causer avec vous vous ont offert assez d'attrait pour qu'il me soit permis de vous inviter à venir chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait beaucoup d'égoïsme à vous y vouloir posséder. Si j'étais assez heureuse pour que vous vous y plussiez, vous me trouverez tous les soirs jusqu'à 10 heures. »
Évidemment, c'est là un dialogue apprêté. Il est un peu trop d'époque pour les exigences verbales de l'écran. Giraudoux le réécrit et compose, fidèlement d'ailleurs, une scène où, dans un jardin d'hiver, la duchesse s'approche de l'inconnu qui vient de s'immobiliser devant une momie rapportée d'Égypte.
Elle est très belle, n'est-ce pas ?
Extraordinairement belle.
Elle a 3000 ans à peu près.
Elle a l'âge de la beauté, l'éternité. Qui êtes-vous ?
Et maintenant, monsieur de Montriveau, utilisez les secrets de notre hôtesse. Voici les importuns, prenez l'escalier dérobé.
Vous êtes madame de Langeais.
Partez, monsieur de Montriveau. Je sais que vous haïssez le monde. Vous n'êtes pas de ceux qu'on prend au piège.
Je n'aime pas le monde. Mais on dit que vous y régnez, c'est donc qu'il est digne d'hommage.
Je ne sais pas si j'y règne, mais moi je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a donné mes amis. Nos amis, nous n'avons pas le loisir, nous autres femmes, de les trouver dans un métier, dans une rue, dans une guerre, débraillés ou sanglants. Nous devons attendre que le monde nous les apporte en bas blancs et en habits. Un bal, pour nous, c'est l'heure où, entre les têtes connues, risque de nous apparaître un signe nouveau, un visage nouveau.
Cela doit être rare.
Très rare. Mais j'ai besoin de peu d'amis.
Ils vous entourent par nuages.
Des nuages où se dissimulent les vrais.
Je les envie et les admire. Ça doit être une tâche peu commune d'être votre ami.
Rien de plus facile. Je suis gaie, pieuse et honnête. Mais pardon, cette femme d'Égypte m'en veut de vous distraire.
Elle a prouvé qu'elle savait attendre.
Parlez-moi d'elle. Elle m'en voudra si vous ne me parlez pas d'elle.
Un passé si lointain vous intéresse ?
Parlez. C'est une danseuse ?
Non. Une reine.
Le passé d'une reine, c'est l'avenir de toute femme.
Les morts rappellent leur reine morte, les vivants leur reine vivante.
Monsieur, je ne sais si ces quelques instants vous ont offert assez d'attrait pour me permettre de vous inviter chez moi, mais je serai heureuse de vous y voir. Vous m'y trouverez toujours le soir jusqu'à 10 heures.
Demain.
Demain.
Cette scène, ce dialogue, montre assez à quel point Giraudoux a réussi sur le plan littéraire dans son entreprise.
Oui, je crois qu'elle prouve en effet à quel point Giraudoux, comme homme de théâtre, comme romancier aussi, a su mettre dans le dialogue tout ce qui était nécessaire et donner à ce dialogue l'espèce de pouvoir d'incantation qu'on trouve rarement chez Balzac. Et d'ailleurs, Giraudoux, son scénario achevé, a dit avec une grande modestie ce qu'il en pensait lui-même.
Je n'ai pu avoir d'autre dessein que d'intéresser au cinéma un spectateur nommé Balzac. Et toute mon ambition s'est bornée cette fois à prescrire au film français une école d'intonation. Si j'ai démontré, après d'autres d'ailleurs, et ainsi que mes amis et moi l'avons fait pour le public du théâtre, que ce que le public du film entend le mieux, c'est le langage, que c'est une bassesse de croire que son oreille réclame le bégaiement, la stupidité, la veulerie ou simplement le solécisme français, c'est-à-dire de le croire bas, et que l'audience au français lui reste naturelle, je crois que l'expérience en valait la peine.
Mais il nous faut maintenant un autre exemple. Sous le titre « Les Dames du Bois de Boulogne », Robert Bresson écrivit et réalisa un film tiré d'un épisode de Jacques le fataliste de Diderot. Peu de films ont été si mal compris lors de leur sortie, mais depuis si hautement loués par la critique et par un public de plus en plus nombreux.
Et tout récemment encore, un référendum international nous apprenait que plusieurs des critiques les plus suivies et les plus exigeants plaçait Les Dames du Bois de Boulogne parmi les 10 meilleurs films du siècle, enfin, ou plutôt du demi-siècle.
Et on a bien dit depuis les mérites proprement cinématographiques de cette œuvre de Bresson. Mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui, il faudrait ajouter que cette adaptation, cette réécriture, et les dialogues que Bresson a composés avec Jean Cocteau, sont un modèle de ce qu'on pourrait appeler la fidélité inventive, à quoi on reconnaît le cinéaste amoureux de son sujet.
Et pourtant, l'anecdote avait de quoi tenter, mais décourager. C'est par excellence le sujet qui ne peut donner qu'un film absolument intérieur. C'est le tragique classique, et non pas la tragédie classique. C'est le tragique français. Un argument net, cinglant, et chez les personnages, quelque chose de pire que la cruauté, un goût de l'absolu qui les rend implacables. Une histoire logique, claire, jusqu'en ses pires conséquences.
Claire, vous avez raison, et on peut d'ailleurs, comme toute histoire classique, la résumer en peu de mots. Madame de la Pommeraye, s'apercevant que son amant ne l'aime plus, jure de se venger. C'est par une ruse qu'elle a obtenu qu'il l'éclaire sur ses sentiments, qui, bien que refroidis, restent amicaux. C'est par une autre ruse qu'elle tentera de le perdre aux yeux du monde et de le déshonorer face à lui-même. Elle fait en sorte qu'il s'éprenne d'une jeune fille qu'elle lui présente comme étant l'image même de la pureté, et cela va de soi, appartenant au meilleur monde. Feignant tantôt de favoriser cette idylle qui deviendra passion, tantôt de ne s'y point intéresser, elle obtient les confidences du marquis.
Et l'affaire ira ainsi jusqu'au mariage. Le marquis, au jour où il prendra pour femme cette jeune personne, apprendra trop tard qu'il a épousé une fille de mauvaise vie.
C'est exactement cela. Et l'affaire serait déjà ainsi suffisamment cruelle, mais il y a pis. Madame de la Pommeraye, qui se croyait vengée et goûtait déjà les fruits amers et glacés de la haine assouvie, s'aperçoit qu'à ce jeu, elle a perdu même la revanche. Car le marquis, trop épris, gardera auprès de lui la jeune femme dont il saura faire, l'amour et le temps aidant, une épouse digne de lui. Diderot a d'ailleurs admirablement analysé les ressorts psychologiques du caractère de la marquise.
Elle touchait au moment où la perte d'un amant ne se répare plus. Tel était son caractère que cet événement la condamnait à l'ennui et à la solitude. Un homme empoignarde un autre pour un geste, pour un démenti, et il ne sera pas permis à une honnête femme perdue, déshonorée, trahie, de jeter le traître entre les bras d'une courtisane ? Ah, lecteur, vous êtes bien léger dans vos éloges et bien sévère dans votre blâme. Mais me direz-vous, c'est plus encore la manière que la chose que je reproche à la marquise. Je ne me fais pas un ressentiment d'une si longue tenue, un tissu de fourberie, de mensonge qui dure près d'un an. Ni moi non plus, ni Jacques, ni son maître, ni l'hôtesse. Mais vous pardonnerez tout à un premier mouvement. Et je vous dirai que, si le premier mouvement des autres est court, celui de Madame de la Pommeraye et des femmes de son caractère est long. Leur âme reste quelquefois toute leur vie comme au premier moment de l'injure, et quel inconvénient, quelle injustice y a-t-il à cela ? Je n'y vois que des trahisons moins communes. Et j'approuverais fort une loi qui condamnerait aux courtisanes celui qui aurait séduit et abandonné une honnête femme, l'homme commun aux femmes communes.
Il est intéressant, passionnant même, de relire page à page l'œuvre de Diderot. On sait qu'elle se présente le plus souvent sous la forme de conversations entre Jacques le fataliste et son maître, qui se comptent diverses anecdotes et épilogues là-dessus, et le scénario de Bresson. Toutes les subtilités des personnages passent de l'un à l'autre, leur comportement, leur manière de parler. Et pourtant, le texte est refait, des éléments visuels, forcément inexistants dans le roman, s'ajoutent, ou plutôt s'insinuent, sans rien alourdir.
D'ailleurs, Bresson a dû créer, ou même recréer, à côté des protagonistes principaux, des figures qui n'étaient qu'esquissées dans Diderot. Il a presque inventé deux personnages qui sont Agnès et sa mère, c'est-à-dire la jeune fille de mauvaise vie et sa mère. Il les a créés à partir de quelques indices que lui donnait Diderot. Il en a fait deux caractères qui servent à nouer les fils de l'intrigue. Mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est vraiment la superposition des deux scènes, celle de Diderot et celle de Bresson.
Eh bien, voici un peu écourtée la scène vue par Diderot, où le marquis, après n'y avoir point paru plusieurs jours, se présente chez Madame de la Pommeraye. Elle sait qu'il est épris de la jeune femme, elle a tout fait pour que cela soit. Sans hâte, presque sans question, elle parviendra à obtenir de lui cet aveu terrible pour elle. Il aime à la folie, il est prêt à tout, et c'est d'elle qu'il attend une aide amicale. Feinte indifférence, ironie, sont les seules armes dont use la marquise, alors qu'elle est tout ravage. Mais écoutons Diderot.
Comme vous voilà fait. Et d'où sortez-vous ? Est-ce que vous avez passé tout ce temps en petite maison ?
À peu près. De désespoir, je me suis précipité dans un libertinage affreux.
De désespoir ?
Oui, de désespoir.
Et Diderot ajoute, il allait aux fenêtres, il regardait le ciel, il s'arrêtait, il appelait ses gens à qui il n'avait rien à dire, il les renvoyait, il rentrait.
Rendez-moi un service.
Lequel ?
Il faut absolument que je la revoie et que je vous en ai l'obligation. Ah, mon ami, quelle figure, qu'elle est belle ! N'aurez-vous pas compassion de moi et ne vous devrais-je pas le bonheur de la revoir ?
Et lorsque Madame de la Pommeraye, pour attiser encore la passion du marquis, lui montre une lettre qu'elle a elle-même dictée et dans laquelle la jeune personne feint de s'irriter des assiduités de Monsieur des Arcis.
Ah, convenez, madame, qu'on n'écrit pas mieux que cela.
Que j'en conviens.
Et qu'à chaque ligne, on se sent pénétré d'admiration et de respect pour des femmes de ce caractère.
Cela devrait être.
Quand la reverrai ?
Je n'en sais rien. Voyez la couleur que ma compassion aurait à ses yeux s'il s'imaginait que j'agis de concert avec vous.
Et que m'importe que vous aimiez ou n'aimiez pas, que vous extravaguiez, débrouillez votre fuse vous-même.
Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdu, vous me connaissez. Que n'avez-vous point à craindre de l'état violent où je suis?
Et Diderot, ou plutôt le narrateur, conclut: le marquis n'avait point dit un mot qui ne fût un coup de poignard au cœur de Madame de la Pommeraye, et l'étouffait d'indignation, de rage. Aussi répondit-elle au marquis d'une voix tremblante et entrecoupée:
mais vous avez raison. Ah, si j'avais été aimée comme cela, peut-être que... Et passons là-dessus.
Pour montrer à quel point Robert Bresson, tout en situant l'action des dames de nos jours, a été fidèle autant qu'ingénieux dans la version filmée qu'il nous donne de ce drame, on serait presque tenté de lire les deux colonnes du scénario, c'est-à-dire celle de droite qui contient les dialogues et celle de gauche qui indique les mouvements d'appareil, la manière dont l'objectif s'empare d'un élément, visage, corps, décor. À cette action qui existe plus en profondeur qu'en surface, Bresson donne par l'image un style déchirant, pur et glacé.
Et alors, avec Jean Cocteau, il a repris, en les simplifiant, en les décharnant quelque peu, les phrases de Diderot, composant une mosaïque un peu différente, mais dont les grandes lignes sont les mêmes. À peine s'accorde-t-il l'invention d'un élément sonore supplémentaire, Hélène, Madame de la Pommeraye, est au piano lorsqu'entre Jean, des Arcis, elle ne cessera presque pas de jouer pendant tout l'entretien.
D'où sortez-vous? On ne vous voit plus.
J'ai fait une chose prodigieusement intéressante. J'ai marché le long de la Seine et j'essayais de compter jusqu'à 1000 d'un pont à l'autre. Et si je dépassais 1000, je revenais sur mes pas et je comptais sur un autre rythme. En montant votre escalier, je me disais, si j'arrive du pied gauche sur la dernière marche, je suis un homme perdu. Par chance, je suis arrivé sur le pied droit.
Et qu'est-ce qui vous oblige à faire ce genre d'exercice?
Le désespoir.
Le désespoir?
Hélène, il faut que je vous parle, même si je vous froisse. Je tombe malade, je ne peux pas me passer d'elle. J'ai essayé de la revoir, je l'ai revue.
Qui?
La jeune fille du bois de Boulogne.
Ah.
J'ai découvert leur adresse grâce à vous.
Moi, je vous ai donné l'adresse?
Pas vous, votre bouche. Il arrive que notre esprit ne surveille pas notre bouche et les mots sortent. C'est ce qu'on appelle faire une gaffe.
Si j'ai fait une gaffe, je le regrette.
Rendez-moi un service.
Lequel?
Les dames du square ne veulent plus de moi. Elles ne sortent jamais et me font répondre qu'elles ne reçoivent personne. Hélène, Hélène, cette fille est merveilleuse. Il faut que je la revoie. Il faut que je tienne cette chance de vous.
J'y penserai. À une condition. C'est que vous ne harcèlerez plus ces deux femmes avec vos démarches. Vous m'attirez des doléances très désagréables, elles se sont plaintes, elles m'ont écrit, et si vous en voulez la preuve, voilà la lettre. C'est une lettre d'Agnès. Lisez-la.
Son écriture lui ressemble. Une écriture sans bêtises, enfantine et noble. C'est comme le soulier de Cendrillon. Si je trouvais une lettre pareille dans la rue, je ferais battre tambour jusqu'à ce que je découvre qui l'a écrite.
C'est tout l'effet que vous produit cette lettre?
Et quel style, quelle grâce, avouez-le.
J'en conviens.
Chaque ligne commande l'admiration et le respect.
C'est ce qui devrait être.
Je les laisserai tranquilles, Hélène, je vous le jure, mais j'ai votre parole. En échange, vous me les ferez revoir.
Mais dans quoi m'entraînez-vous, mon pauvre ami? Vous voulez me faire jouer un rôle impossible. Vous aimez, vous n'aimez pas, mais est-ce que cela me regarde? Débrouillez votre cœur vous-même. Rendez-vous compte de ce que deviendrait ma complaisance si ces braves femmes s'imaginaient que je me consacre à faciliter vos plaisirs.
Mais Hélène, vous ne comprenez pas, il ne s'agit pas de mes plaisirs. Je vous aime trop pour vous rendre complice d'une histoire sans importance. Non, Hélène, j'aime, je perds la tête, je deviens fou, je suis capable de n'importe quoi. Le visage d'Agnès est dans ma poitrine comme une blessure. Quand je dors, je la rencontre. Et quand je me réveille, je rêve elle. Je marche dans les rues et j'échafaude des plans pour forcer sa porte, pour braver ses consignes, pour lui crier ce qui me fait du mal. Et quand je suis crevé de fatigue, je compte les arbres, les rainures du trottoir, les réverbères. Je deviens fou.
Comme vous l'aimez.
Nous avons promis à l'ouverture de cette émission de parler aussi des scènes inventées. Des scènes que l'écrivain de cinéma peut être quelquefois obligé de concevoir, car certaines nécessités peuvent l'y contraindre. Ou bien il peut être amené, simplement, par goût, à inventer ces quelques scènes de transition, ou même quelquefois ces scènes importantes à l'action.
Alors voilà qui va inquiéter fort les puristes. Ajoutez, dites-vous, on aimerait savoir ce qu'en pense l'auteur de l'original. C'est le point de vue qui compte, tout de même.
Oui, mais il n'en est pas toujours mécontent, au contraire. Je vais vous donner un exemple. Jules Romain, l'auteur de Knock, fut enchanté et rit de fort bon cœur à la lecture d'une scène que le poète et dramaturge Georges Neveu a inventé de toutes pièces lorsqu'il fut chargé de l'adaptation cinématographique de Knock.
Alors, pourquoi, je vous prie, cette scène supplémentaire ?
Eh bien, je pourrais essayer de vous répondre, mais quelqu'un a posé si bien, et résolu d'ailleurs, si bien le problème, que nous ne pouvons mieux faire que de le citer. Il s'agit de ce qu'écrivit Malraux dans son esquisse d'une psychologie du cinéma.
Le problème principal de l'auteur d'un film parlant est de savoir quand ses personnages doivent parler. Au théâtre, ne l'oublions pas, on parle toujours. Sauf pendant les entr'actes. L'entr'acte est un des grands avantages du théâtre. Des choses se passent pendant que le rideau est tombé. L'auteur dramatique les fera connaître par allusion. Pour se délivrer des instants morts, le roman à la page blanche qui sépare les parties, le théâtre, l'entr'acte, le cinéma n'a pas grand-chose. Un professionnel répondra qu'il dispose de la division en séquences, que chaque séquence se termine par un fondu et que le fondu suggère au spectateur le passage du temps. C'est vrai, mais d'une façon toute relative. Il suggère le passage d'un temps dans lequel il ne s'est guère produit d'actes imprévisibles. Au contraire du temps de l'entr'acte, qui peut être un temps meublé, celui du fondu permet mal l'allusion à ce qu'il a rempli, si ce qu'il a rempli implique la modification des personnages.
Et c'est ainsi que le problème s'est posé à Georges Neveu lorsque force lui fut de combler l'entr'acte entre l'acte 2 et l'acte 3.
On ne peut mieux faire, alors, pour justifier la scène inventée par Neveu que de rappeler les données de la pièce. On connaît l'idée maîtresse, bien sûr, qui préside au système du docteur Knock. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Slogan par lequel Knock plongera dans l'inquiétude un village tout entier. Auparavant, il aura confié à son prédécesseur, le docteur Parpalais, cette scène est dans la pièce, le secret, sinon de sa vocation, du moins de sa réussite. Il s'était engagé comme médecin sur un bateau où le grade de docteur n'était pas exigé.
Oui, à ce moment-là, Parpalais lui disait « Aviez-vous beaucoup de monde à bord ?»« 35 personnes en tout, y compris l'équipage », répondait Knock. Et le docteur Parpalais, intéressé, disait « Mais des malades, en avez-vous eu beaucoup ?»« 35 », dit Knock. « Alors tout le monde ?»« Oui, dit Knock, tout le monde. » Docteur Parpalais, de plus en plus étonné, comment le bateau a-t-il pu marcher? Et Knock a cette réponse, qui est bien dans son style, un petit roulement à établir.
Et alors c'est cette phrase, un petit roulement à établir, qui a fait son chemin dans l'esprit de Georges Neveu. Et lorsqu'il s'est agi de donner, par une courte scène comique évidemment, à la fois l'impression du temps passé entre les actes 2 et 3 et de parfaite réussite de Knock, qui a pu, en un habile tournement, mettre sur le flanc toute la population de Saint-Maurice, il a cherché comment établir le petit roulement au sein d'un organisme quelconque de la petite ville. Ou, dans le conseil municipal, dans la fanfare plutôt, car en effet, le deuxième piston remplace mieux le premier piston que le deuxième adjoint ne remplace le premier adjoint.
Et puis visuellement, l'idée de la fanfare amenait un effet beaucoup plus amusant.
Non, messieurs, la fête ne sera pas retardée. Pourtant, la maladie, on peut le dire, s'est acharnée sur la fanfare. Mais les microbes ont été vaincus par la médecine. Monsieur Jost, notre premier trombone, a pu être remis sur pied grâce au docteur Knock, le jour même où le deuxième trombone a dû prendre le lit. Et les répétitions n'ont pas été interrompues. Et quand notre deuxième piston a dû garder la chambre, le docteur Knock, par un traitement énergique, a rendu la santé à notre premier piston, qui, depuis quelques jours, ne se sentait pas bien. Et les répétitions ont pu continuer. Et aujourd'hui, si nous devons, hélas, déplorer l'absence de notre premier flûtiste, nous pouvons en revanche saluer le retour de notre deuxième flûtiste, enfin rétabli. Et la répétition aura lieu. À mon commandement, 1, 2, 3, 4.
Mais la scène inventée, la scène écrite pour l'œil, n'est pas toujours motivée par la simple nécessité de meubler un espace de temps, de ménager une transition. Elle peut, me semble-t-il, s'imposer tout naturellement à celui qui repense, qui recompose l'intrigue, et peut avoir envie de nouer ailleurs, dans une atmosphère un peu différente, les fils qui relie entre eux les personnages.
Et nous pourrions en trouver plusieurs exemples dans un film tiré d'un roman fameux et qui connut un très grand succès. C'est un modèle de l'adaptation fidèle, bien que là encore, scénariste et dialoguiste aient pris, car il le fallait, d'assez grande liberté avec le texte.
Alors je vous entends, c'est du Diable au corps qu'il s'agit.
C'est du Diable au corps qu'il s'agit, roman classique encore, dans sa forme du moins, roman psychologique où, si l'atmosphère est constamment tendue, elle se schématise mal, où l'anecdote ne comporte pas de ces épisodes massus, de ces coups de théâtre qui offrent, pour certains metteurs en scène, tant d'attrait. Telle se présentait l'œuvre de Raymond Radiguet qu'on allait porter à l'écran.
Pureté de moyens, rigueur dans le romanesque, qualité qu'on trouve bien rarement, hélas, au cinéma.
On pouvait, au fond, tout craindre d'une entreprise de ce genre. Cette fois, ça n'était plus « Donner l'heure du J », dis en fond de l'Henri Bordeaux, mais « Donner l'heure du Radiguet », ils en font tout de même du délit. Seulement, Radiguet avait de la chance. Et Claude Autant-Lara, Pierre Bost et Jean Orange ont prouvé une fois de plus que ce sont les imaginatifs qui sont les plus fidèles.
Et oui, ils ont su inventer sans mentir, déplacer sans déranger, modifier le rythme sans rompre l'harmonie. La guerre de 14 vient à peine de commencer et François, un adolescent, un enfant presque, avec pourtant déjà les exigences d'un homme, s'éprend de Marthe, jeune fille plus âgée que lui et déjà fiancée. C'est d'abord une sorte de jeu, puis un sentiment idéal qui bientôt entrera dans les normes d'un amour charnel. L'amourette a viré au drame, l'enfant s'est chargé des chaînes de l'homme. Marthe, qui a épousé le militaire auquel elle était fiancée, mourra peu de temps après avoir mis au monde l'enfant de François.
Cette histoire, Autant-Lara, Bost et Orange ont su, par l'image et par le dialogue, en recréer très exactement le climat. Un bonheur brusquement éclos dans le drame environnant, la guerre. Une île d'amour surgit au milieu des remous du monde. D'un monde dans lequel ni Marthe ni François ne peuvent, ne veulent et ne savent se fondre.
Parmi ces scènes, à mon avis, il en est une si réussie que bien des gens qui n'avaient pas le roman tout à fait présent à l'esprit ont pensé qu'elle était authentique. C'est la scène du restaurant. Elle était si adroitement composée, si parfaitement liée aux instants précédents et suivants, qu'on pouvait en effet, je crois, vraiment s'y méprendre.
Et pourtant, rien ne l'annonçait dans le roman, rien ou presque. Radiguet indique seulement que François, ayant rencontré Marthe, il la connaît depuis peu de temps, l'emmène dans un bar où elle s'extasie, car c'est une jeune fille bien élevée et peu habituée à ces sortes d'endroits. Elle s'extasie sur la veste blanche du barman, sur les noms bizarres et poétiques des mélanges. Pourtant, elle est plus âgée que François, et c'est là un des éléments très importants dans la formation de ce couple. Souvent déjà, elle le lui a fait sentir. Les scénaristes, eux, ont situé cette scène au restaurant Véfour. Là, François, heureux de jouer un rôle d'homme, désireux de faire oublier à Marthe le fiancé, qu'il n'appelle d'ailleurs avec assez de mépris que « ce militaire », François va se tirer brillamment d'une petite épreuve à laquelle Marthe le soumet. Il se conduira en très grand garçon, presque en homme, il poussera ses avantages, et Marthe, qui a commencé par sourire, se prendra au jeu. Comme le romancier, mais par des voies différentes, les auteurs du film vont donc guider leurs personnages et nous-mêmes de l'ironie à l'émotion.
Donnez-nous le pommard maintenant. Vous savez, Marc, que vous n'aimez pas ce militaire.
Non, vous avez tous les toupets. Et pourquoi ça?
Parce que vous êtes ici, tout simplement.
Si vous le prenez comme ça, je m'en vais.
Oh, ça n'y changera rien.
Tant pis, je reste. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour le sanglier.
Vous aimez beaucoup le sanglier?
C'est justement ça que je veux savoir, je n'en ai jamais mangé.
Je n'ai plus de 1906, je m'excuse. Monsieur veut-il du 1905? Il est bon aussi.
Oui, ça ira.
Il est plus vieux que vous, votre vin.
J'ai 17 ans.
Et vous êtes encore en seconde à 17 ans?
Oh, je suis terriblement en retard.
D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir 17 ans. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez 13 ans au début de la guerre.
6 mois près, quoi.
Tiens, il sent le bouchon.
C'est vrai?
Vous ne trouvez pas?
Oh, si. Oh, vous avez raison. Sommelier, dites-moi, ce vin sans le bouchon?
Le bouchon? Monsieur m'étonne. Vous permettez? Monsieur m'excusera, je ne sens rien.
Quelque chose ne va pas, monsieur.
Je n'ai rien, mais le pommard sent un peu le bouchon.
Ah, pourtant, nous n'avons jamais d'ennui avec ce vin-là. Vous permettez? Monsieur a sans doute raison. Moi, je ne vois rien.
Ah, c'est pourtant un fait.
Anselme, vous allez me dire... Est-ce que ce vin a quelque chose? À moins que ces bourgognes déjà assez vieux et qui sont chargés en tanin. Alors?
Non. Il est bien. Et que disait monsieur?
Je dis qu'il sent le bouchon.
Le bouchon?
Appelez-moi le gérant. Écoutez, c'est pourtant bien simple. J'ai là un pommard qui sent le bouchon. Ces messieurs en ont laissé un peu. Voulez-vous le goûter?
Oh non, je vous en prie, monsieur, puisque vous me le dites. Changez cette bouteille. Le reste allait bien?
Tout est parfait.
Oh, c'est vous qui êtes terrible.
Chacun son tour. Il est rudement bon.
Et pas le moindre goût de bouchon, n'est-ce pas?
Pas le moindre. Vous vous en êtes bien tiré.
Oh, mais je savais que c'était une épreuve. J'ai droit à ma récompense.
Oh, on nous regarde.
Ah, c'est tout ce que vous trouvez à dire? Vous voyez bien que vous ne l'aimez pas.
François, je vous demande de ne plus parler de ça.
Vous avez peur. Avouez-le.
Si ça peut vous faire plaisir, oui. J'ai un peu peur.
De moi ou de vous?
Ça ne vous regarde pas.
Ça va, merci. Pourquoi vous êtes-vous tellement pressé? N'auriez pas pu attendre un peu?
Attendre quoi?
De me rencontrer.
François, je suis tellement plus vieille que vous.
Je suis très jaloux, vous savez. Non, pas de lui. Je suis jaloux de vous.
Alors vous ne voulez pas que je sois heureuse?
Non, si, je veux bien. Seulement, je voudrais l'être en même temps que vous.
C'est impossible.
Alors, bon Dieu, pourquoi êtes-vous ici?
J'aime mieux vous voir en colère.
Pardon. C'est passé. Vous avez raison, Marthe. C'est vous qui avez raison. Parlons plus de rien. Vous avez vu? Le Brésil a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est ça qui vous fait pleurer?
Sans doute la scène de pure invention ajoutée à l'œuvre originale peut très bien être, et qu'on ne voit là aucun paradoxe, fidèle à l'esprit de l'auteur. Peut-être même celui-ci aurait-il, en d'autres circonstances, songé lui-même à l'écrire. Je suis certain que Radiguet n'aurait point désavoué la scène du Véfour. Alors qu'au contraire, bien les écrivains dont on prétend avoir respecté le sujet jusque dans ses détails peuvent être révoltés de la manière dont on les a traités. Il y a la lettre et il y a l'esprit.
C'est un peu ce que je pensais l'autre jour, en assistant à un film bien médiocre qui prétend être une adaptation de la célèbre nouvelle de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Eh bien, comme vous le remarquiez tout à l'heure, l'anecdote y est, en gros, la plupart des personnages même s'y retrouvent. Mais, de cette tragédie, car 24 heures est une cruelle, une déchirante tragédie qui doit vous laisser le cœur à vif et la raison tout égarée, on a fait une aimable bluette, une sorte de comédie sentimentale. Et surtout, on n'a pas tenu compte de ce qui est le noyau même de ce fruit, l'âme de cette histoire, la nuit, passée ensemble par deux êtres qui, quelques heures plus tôt, ne se connaissaient point et qui, quelques heures plus tard, seront à jamais séparés.
Alors, bien sûr, cette nuit, Zweig ne l'a pas décrite par le menu, mais il a tout fait pour qu'on la sente, qu'on l'imagine, que le lecteur la vive, comme l'a vécu l'héroïne. Un film basé sur cette nouvelle devait nous restituer cette nuit d'amour. Et tout au contraire, la version filmée qu'on vient de nous donner l'escamote. Mais enfin, rappelons le thème.
Mais le thème, c'est une femme fort âgée, une Anglaise, Mrs. C, elle n'a pas de nom, fait un soir à l'auteur le récit, ou même la confession, d'une aventure qui a bouleversé et même anéanti à jamais sa vie. 20 ans plus tôt, fortunée, veuve, désœuvrée, plus très jeune déjà, elle avait alors 48 ans, et 48 ans en 1880, c'était beaucoup. Cette femme vivait à Monte-Carlo. Un soir au casino, elle y allait par désœuvrement pour passer une soirée. Elle remarque un très jeune homme qui perd sans arrêt et qui semble à la limite du désespoir. Elle le voit sortir, hagard, de la salle de jeu. Elle s'émeut de cette visible détresse. Elle redoute que l'inconnu ne se livre à quelque acte de désespoir. Nous sommes en 1880, c'était l'époque où on se tuait facilement pour une dette d'honneur, parce qu'on était ruiné. Elle traverse les jardins du casino, c'est la nuit. Elle s'approche du jeune homme, tente de le raisonner, de l'aider. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre.
Alors, bien loin d'elle, la pensée que cette rencontre, cette tentative de sauvetage, pourrait évoluer dans le sens d'une aventure. Et en effet, elle est d'âge à être la mère du jeune homme, elle est anglaise, du meilleur monde, et elle vit depuis son veuvage dans une sorte de demi-réclusion qui la met, on l'imagine assez, à l'abri de toute pensée de cet ordre.
Naturellement, et c'est cette pureté d'intention, cette naïveté chez elle, qui font qu'elle n'hésite pas à offrir de l'argent au jeune homme, à essayer de le convaincre de trouver au moins un abri pour la nuit, à l'accompagner jusqu'à un hôtel comme on ferait à un blessé. Mais là, brusquement, le jeune homme, toujours hébété, l'entraîne dans la chambre. Il l'a prise pour une femme de mauvaise vie. Il n'a pas compris. Et voilà, dans une chambre sombre, il se voit à peine. Elle n'ose plus sortir, par crainte du portier, des voisins. Mais elle imagine aussi que si elle part, il se tuera.
Et Zweig, avec une grande habileté de conteur, nous fait alors revenir à Mrs. C. plus âgée, faisant à son confident le récit, non point de ce qui s'est passé, mais de ce qu'elle a éprouvé pendant cette nuit. Cette nuit de terreur et de révolte, de tendresse et de mort, cette nuit où elle s'est aperçue que, jusqu'alors, elle n'avait jamais aimé. Et c'est cette scène que vous aviez écrite lorsqu'il y a quelques années, un metteur en scène français s'était proposé de tourner 24 heures d'une façon toute différente, évidemment, de celle qu'ont adoptée les Anglo-Américains, responsable du Technicolor récemment paru.
Oui, c'est donc maintenant la scène écrite pour un film qui n'a jamais vu le jour, c'est la scène de 24 heures, assez fidèle, je crois, à l'esprit de Zweig. Voilà donc les héros, comme il les a laissés, dans l'hôtel. La porte vient de se refermer. Le jeune homme prend Mrs. C pour une de ces femmes qui abordent les joueurs au sortir du casino. Mrs. C, effrayée, mais résolue à le sauver, est debout à côté de lui dans la pénombre.
Et voilà. Tu es bien avancé.
Je vous en prie. Je ne voulais pas.
Quoi? Tu veux partir? Oh, pars si tu veux. Pars tout de suite.
Je viens de faire la couverture à la portée de Nantes.
C'est inutile. Il est parti. Assieds-toi. Pourquoi tu pleures? C'est moi qui te fais peur. Je t'ai dit, il fallait partir avant, tout de suite. Maintenant, tu es là. Tu es là. Écoute, tu partiras quand tu voudras, mais pas maintenant. Tant que tu seras là, mais il me reste encore, je ne sais pas, ma voix.
Je vous en prie.
Mais pourquoi es-tu venu? Pourquoi veux-tu partir? J'étais seul, j'étais décidé, tu t'es approché, qu'est-ce que tu voulais?
Mais je ne sais pas.
Mais dis-le, dis-le, m'empêcher de mourir. Voyez-vous ça? Et tu m'as parlé, tu voulais savoir quelque chose. Je ne saurai rien. Personne ne saura rien. Et c'est bien, très bien comme ça. Tiens, je vais te faire un cadeau. Je t'avais dit qu'il ne me restait rien, je m'étais trompé. Prends ce papier. Allez, prends. Si, si, ça vaut quelque chose. Ça vaut une valise, un chapeau, si j'ai bonne mémoire. Et même un parapluie. Demain, tu iras les retirer au Mont-de-Piété. Comme ça, tu n'auras pas perdu ton temps. Alors, tu es contente? Non, ce n'est pas assez. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse cette porte! Ne crois pas que je vais te laisser filer comme ça. Maintenant, je veux savoir et je veux en finir avec toi. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi m'as-tu suivi? Tu t'es collé à moi comme la malchance. Qu'est-ce qui t'envoie? On t'a parlé de moi? On t'a dit... On t'a dit...
Mais on ne m'a rien dit. Et personne ne m'envoie... C'est ma faute.
Oui, c'est ta faute. Bien sûr que c'est ta faute. C'est ta faute si je suis là maintenant. Je ne te raconterai rien.
Je peux te dire pourtant que je ne suis pas le genre de type qui se tue dans un hôtel de passe. Et tu as profité de tout, de l'orage, de la nuit, de l'état où j'étais, pour m'attirer là. Tu crois que je vais rester seul maintenant?
Oh, si vous pouviez comprendre. Vous vous trompez tellement. Oh, oui, je sais bien, en un sens. Vous pouvez croire que c'est ma faute, et pourtant c'est seulement... que je vous ai regardé jouer, que je vous ai vu perdre.
Et alors, tu n'as jamais joué? Tu n'as jamais perdu? Évidemment, tu dois être économe, toi, prévoyante et économe. Ouais, tu as raison. Tu feras bien de ne jamais commencer à jouer. D'ailleurs, je vais te dire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la somme qu'on regrette à chaque fois qu'on perd, non. C'est autre chose. Ce n'est pas l'espoir de gagner qui s'en va. L'espoir, ça se rattrape toujours. Ce qu'on perd, c'est la certitude. Non, je sais bien, tu peux pas comprendre. Jusqu'à présent, ça ne m'avait pas frappé non plus. On perd la certitude de deviner. Quand elle vous quitte, quand elle vous manque, quand on voit qu'elle est ailleurs, juste à côté, qu'elle est avec les autres, qu'elle se moque de vous. Alors, il n'y a plus rien à faire. Bon, c'est sans doute ça qu'on appelle une passion. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ce revolver, laisse ça! Laisse ça! Je t'ai fait mal. Pardon. Mais je ne veux pas. Je ne veux personne. Je n'ai plus rien à dire. Plus rien à donner ni à perdre. Allez, allez! Pars maintenant, c'est moi qui te le demande! Écoute, pardonne-moi. Attends. Donne ton bras. C'est là, au poignet. Tes vêtements glacés. Et toi, tu es brûlante. Veux-tu t'allonger?
Oh, laissez-moi.
Qu'est-ce que tu m'as fait croire, dit, quand tu m'as apporté?
Et rien, justement. Vous vous trompez, c'est cela qui est terrible.
Écoute, écoute, tais-toi, et essaie de comprendre, puisque tu es là, puisque je veux que tu restes. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Que je m'étais trompé parce que j'avais cru que tu étais une femme perdue. Mais il n'y a aucune différence au point où j'en suis, si tu savais. Femme perdue, homme perdu, aucune différence. Laisse ton bras. Si, il y a une différence entre toi et le reste, entre nous et le monde. Tu es muette, tu es immobile. Je n'aime pas connaître ni comprendre ce que j'ai, mais j'aime l'avoir. Je ne t'ai jamais vu et j'aime que tu sois là. Et maintenant, je te crois. Oui, tu es venue pour m'aider. Comme tu es innocente. Tu n'as jamais souhaité la mort de personne, n'est-ce pas? Ni même la tienne. Comme tu es patiente. Je voudrais te voir maintenant. Mais non, je ne veux pas, non. T'entends la pluie? Tu te rappelles le banc? J'étais fou, je ne te voyais pas. Tu ne veux plus partir. Je sais que tu ne veux plus partir. Tu ne le feras pas, jure-le, même si je ferme les yeux, même si je pouvais dormir, jure.
Oui.
Parce que maintenant j'aurais peur d'être seul. Parce que maintenant j'aurais peur de mourir.
Il ne faut pas mourir.
Non. Non, bien sûr, il ne faut pas. Et j'oublie peu à peu. Je ne sais plus bien où nous sommes. Et toi?
Moi non plus. J'ai oublié.
Oublie. J'entends ton souffle. Le souffle, c'est la vie. On le dit toujours, je ne l'avais jamais compris. Ton souffle, c'est la vie qui revient.
J'entends le vôtre aussi.
Tu es légère. Je n'entends plus l'orage et toi?
Je n'entends plus rien.
Dis-moi maintenant, dis-moi, tu n'as plus peur?
Non, je n'ai plus peur.
Tu n'as plus mal?
Non, je n'ai plus mal.
Alors tu vas être heureuse comme moi. Tu le sens, c'est une nouvelle peur qui vient, mais belle, et je l'attends, et tu l'attends. Parle-moi vite maintenant. Parle-moi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds. Réponds puisque je suis vivant, puisque tu es vivante. Tu ne sais pas dire je t'aime. Tu n'as jamais su. Tu ne l'as jamais dit.
Nous n'avons pas encore parlé des poètes. Les poètes ont-ils une chance de pouvoir, pour justifier notre titre, mettre leurs plumes au service de la lumière? Fera-t-on jamais appel à un poète pour écrire des dialogues de films?
On y a tout de même songé, quelquefois. Mais à part Jacques Prévert, qui justement a eu la chance de pouvoir composer le plus souvent des histoires originales en même temps que d'admirables dialogues, bien peu des poètes qui comptent aujourd'hui ont été sollicités ou tentés.
Oui, on avait parlé pourtant d'un Candide qui aurait adapté et dialogué Raymond Queneau.
Le projet n'a pas eu de suite. Mais sans pousser au noir, il me semble que nous devrons attendre des années, pour ne pas dire plus, avant que les industriels du cinéma, producteurs, bailleurs de fonds, comprennent quel chef-d'œuvre les poètes pourraient composer pour l'écran.
Mais un poète était prêt, il y a quelques années, à tenter l'aventure. Il avait écrit son film, il se proposait, avec l'aide d'un technicien qui l'aurait secondé dans la matérialisation de ses idées, si je puis dire, de tourner lui-même son film, et c'est René Char.
Oui, et il nous faut malheureusement compter son « Soleil des eaux », parmi les œuvres admirables qui n'ont pas vu le jour, ces œuvres qui auraient pu faire que le cinéma soit autre chose que ce qu'il est.
Du Soleil des eaux, qui devait être tourné aux environs du Mont de la Fontaine de Vaucluse, il nous reste un livre composé de dialogues qui sont à peu près ceux que Char avait conçus pour le film. Ce spectacle, c'est ainsi que le poète le nomme, fut présenté naguère à la radio. On imagine assez à le lire ou à l'entendre quel splendide relief aurait pris cette action, ces êtres, ce décor, ce parler simple et seigneurial des paysans, des pêcheurs de la vallée de la Crillonne.
Le sujet du Soleil des eaux, d'ailleurs, René Char l'a emprunté au récit des pêcheurs de la Sorgue. Ces récits nous relatent comment, aux environs de 1900, l'installation d'usines à la source de la merveilleuse rivière vint apporter la ruine parmi les pêcheurs, la mort parmi le poisson, à détruire la poésie d'un lieu, le sens d'une harmonie séculaire.
Cette histoire, à demi-véridique, à demi-imaginée, comme le dit Char, est donc celle de la révolte des pêcheurs, de leur tentative pour détruire la cause du mal et de leur échec. C'est aussi une histoire d'amour, ou mieux, l'histoire d'un amour, celui de Francis Abondance qui mènera la révolte, et de Solange Catilinaire, Solange dont Char nous dit encore qu'elle appartient à l'amour comme la plus haute fleur est indivise entre la foudre, le glacier, le volcan, ces trois seigneurs illuminants, ces trois souhaitables extrêmes.
Voici donc la rencontre de Francis et de Solange. Ils se rencontrent là pour la première fois. C'est un dimanche de juin. Devant l'église, les villageois sont rassemblés et vont entrer. Et tout à l'heure, le curé, comme il l'a annoncé, va commencer à raconter l'histoire d'un saint patron du pays.
Ne partez pas.
Bonjour. Ai-je perdu ou trouvé quelque chose?
Écoutez, il n'y a que deux personnes d'accordées sur cette montagne, vous et moi. Et vous voudriez si vite les séparer?
Vous êtes pêcheur, au moins. Vous êtes comme l'eau qui court. Vous ne doutez de rien.
Je vous observe depuis un long moment. En vous voyant vous lever, je me suis senti comme pris en faute.
Je ne me savais pas à ce point funeste.
Asseyons-nous, voulez-vous?
Je ne connais pas l'histoire du saint et je veux l'entendre.
laissez-moi vous la raconter. Vous verrez, je n'omettrai aucun détail.
Je veux bien, après tout.
Comment voulez-vous que ce brave saint se conduise?
Pas comme un saint, bien sûr. Ni comme un galant.
Je regrette, il était les deux.
Mettons-nous ici. Vous, là. Dites.
C'était dans sa jeunesse un homme peut-être comme celui-ci, mais coureur de filles. Ce n'était pas facile alors de se choisir une reine. Il n'y en avait qu'une, la reine de France, et elle était prise. Aussi, ça ne pouvait que mal finir.
Saint comment?
Francis est mon nom, si vous aimez plaisanter.
Continuez sérieusement.
Un jour, Voutil entendit des voix qui lui commandaient de se retirer dans la montagne et de faire pénitence. Comme il était généreux, il distribua ses biens et vécut ici, dans le languir de sa reine. Avec les pierres qui ne manquaient pas, il construisit sa maison et son étable. En compagnie de deux vaches, il défricha un petit champ et y trouva sa nourriture.
Personne ne venait le voir?
Pensez-vous, il faisait pour de bon pénitence. Mais les choses se gâtèrent. Un loup, il y en avait alors dans le pays, tua une de ses vaches. Soutenu par le courage des anges, Voutil séduisit le loup et l'atlas à charrue côte à côte avec la vache qui lui restait. Depuis des siècles, ils labourent sans connaître de repos. Leur champ est l'imagination de chacun. La vôtre, la mienne.
Je ne serais pas surprise que Voutil fût un de vos parents.
Je voudrais bien. Vous le connaîtriez mieux comme cela. Vous auriez tout de suite confiance.
C'est drôle. Les saints, on ne les rencontre jamais de leur vivant.
Une sauterelle. Ne la chassez pas, vous voyez bien qu'elle est perdue, qu'elle est heureuse. Vous habitez loin d'ici.
Mon père est contremaître à la fabrique.
Dites, vous ne voulez pas que nous fassions quelques pas?
Il n'y avait que toi.
La Radiodiffusion française vous a présenté... La plume et la lumière, du roman au cinéma, une émission de Nicole Védresse et Dominique Fabre, avec des textes de Balzac, Giraudoux, Jean Cocteau et Robert Bresson, Raymond Radiguet, Jean Orange et Pierre Bost, Gilles Romain, Georges Neveu et René Char. Interprété par Maria Cazares de la Comédie-Française, Jeanne Moreau, Nicole L'Admiral, Louise Comte, sociétaire de la Comédie-Française, Roland Alexandre de la Comédie-Française, Michel Bouquet, Renaud Marie, Jacques Ling, Léon Harvel, Georges Sellier. Réalisation, Henri Soubéran.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 mai 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».